France Musique. C'est l'été sur France Musique. Les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Lili Boulanger n'était pas morte à l'âge de 24 ans? En 2011, Bibliothèque nationale, département de la musique, rue de Richelieu. Aujourd'hui se déroule un événement incroyable. Cela fait près de 30 ans qu'on attendait ce moment. L'ouverture d'une malle ayant appartenu à Lili Boulanger. Sa sœur Nadia en avait interdit l'accès. Il s'agit d'une grande malle en cuir marron. On murmure qu'elle contient des documents personnels de Lili Boulanger, qu'elle révélerait des secrets de famille, notamment une histoire sentimentale longtemps cachée de Lili, ou encore la vérité concernant l'identité de son vrai père. Mais aussi qu'à l'intérieur, il y aurait un trésor. Un opéra complet de Lili Boulanger, d'après la princesse Malène de Maeterlinck. Sa sœur Nadia voulait la léguer aux enfants du 21e siècle. On ouvre la malle. Un bruit de clé. Et oui, il y a bien un trésor. Un opéra, mais aussi une symphonie magnifique qui témoigne de l'évolution radicale du langage de Lili Boulanger. Un extrait de Lulu Suite de Berg dans la version dirigée par Simon Rattle à Birmingham. Fiorella Sassanelli, vous êtes la spécialiste internationale de la musique de Lili Boulanger. Bonjour.
Bonjour et merci pour cette invitation.
Vous avez écrit un ouvrage bilingue de référence qui s'appelle, je vous laisse le dire en italien,
Frammenti ritrovati di una vita interrotta.
Voilà. Donc ce sont les fragments retrouvés d'une vie interrompue. Je vous poserai la question en fin d'émission, si Lili Boulanger aurait pu devenir la Alban Berg française s'il avait vécu plus longtemps. Mais tout d'abord, cette malle de partition existe, et vous, Fiorella Sassanelli, vous étiez présente durant son ouverture.
Malheureusement non, parce que la cérémonie était réservée à un comité scientifique restreint. Et 6 jours avant, j'avais soutenu ma thèse de doctorat sur Lili Boulanger et j'étais partie en Italie. Ce n'est qu'en 2013, pendant l'été 2013, que j'ai pu avoir accès à la malle grâce à un programme financé par la Bibliothèque nationale avec le ministère de la Culture pour inventorier le contenu de la valise.
Et c'était un véritable trésor, donc?
Oui, c'était un trésor parce que il y avait beaucoup d'agendas de sœur Nadia et Lili Boulanger, beaucoup de lettres, surtout des centaines de lettres, très peu de photos, mais malheureusement pas de musique.
Donc l'opéra qu'on évoquait au tout début, en fait, la princesse Malène n'existe pas.
Non, n'existe pas. Au contraire, le document le plus remarquable de cette valise est une lettre des éditions Ricordi de Milan qui refuse d'accorder à Nadia, 10 ans après la mort de Lili Boulanger, la lettre du 11 mai.
Ça, ouais.
11 mai 1928, d'accorder à nouveau délai pour la remise de la partition. Nadia avait promis à Lili de mener à bout la composition de la princesse Malène, mais elle n'est pas capable de garder cette parole, parce que peut-être elle ressent un sentiment d'incapacité et aussi de frustration. On sait qu'après la mort de Lili Boulanger, Nadia abandonne peu à peu la composition et se donne à l'enseignement et à la direction d'orchestre. Donc, le fait de ne pas réussir dans cette entreprise, pour elle, est une défaite sur le plan émotionnel, mais aussi éthique.
Et on a appris aussi des choses par rapport à la vie amoureuse de Lili Boulanger, dans cette malle.
On a appris beaucoup de secrets de la famille, parce que je dirais que la valise ouvre une perspective sur l'intimité de la famille Boulanger. On connaît mieux la nature du rapport entre les deux sœurs, parce que chez Nadia, Lili est bébé et vice-versa, l'aînée est appelée Maminette.
Maminette.
Oui, parce que Lili retrouve en Nadia les douceurs d'une mère inaffective. Lili souffre à fond la solitude. Elle est condamnée toujours à être seule, la maladie lui empêche de suivre les cours au conservatoire, mais aussi de se fiancer et d'accomplir sa vie du point de vue de la fiction.
Car Lili Boulanger a été une grande amoureuse.
Lili Boulanger était une adolescente qui avait droit à l'amour, mais la guerre le lui empêche. Elle a un petit fiancé qui s'appelle Jean Baouens, mais qui part soldat dans l'aviation pendant la guerre, et les médecins sont formels avec elle. Ils disent que Lili Boulanger ne peut pas se fiancer pendant la guerre parce que la peur pour le destin de son aimé pourrait la tuer. Lili est une jeune fille dont la sensibilité est à l'extrême, même une tonnerre la bouleverse. Et donc c'est pas possible pour elle de souffrir, de garder l'anxiété pour le destin de son fiancé.
Malgré tout, il y a une grande page amoureuse dans la production musicale de Lili Boulanger, c'est Faust et Hélène qui lui a permis de gagner le prix de Rome en 1913. C'est un grand moment amoureux.
Oui, mais l'amour est l'un des thèmes principaux de la musique de Lili Boulanger. Rappelle-toi l'heure du temps livré.
Un extrait de la cantate Fausto et Hélène, avec laquelle Lili Boulanger a remporté le prix de Rome en 1913. Quelle fougue, quel romantisme, n'est-ce pas, Fiorella Sassanelli?
Un doux romantisme.
Alors, Lili Boulanger a vécu 24 ans. Fiorella Sassanelli, de quoi est morte Lili Boulanger?
Alors, on sait aujourd'hui que Lili est morte à cause du morbe de Crohn.
Maladie de Crohn, oui.
Une maladie qu'on n'a, lui, jamais diagnostiquée. Elle a toujours été de santé fragile, souffrant de troubles respiratoires, douleurs aux intestins et aux articulations. Mais chaque fois, on intervenait sur les symptômes sans jamais découvrir l'origine de ces maux.
Mmh. Et selon vous, malgré tout, ce sont ces souffrances qui expliquent la profondeur de la musique de Lili Boulanger ?
Malheureusement, je pense que oui. Parce que même si sa musique n'est pas en désarroi à la vie, au contraire, le tragique de son existence révèle un grand attachement à la vie. Mmh. Sa composition la plus extrême de ce point de vue est une mélodie dont le titre est « Dans l'immense tristesse ». Mmh. C'est une mélodie voix et piano sur un texte d'une poétesse Berta Galeron de Calogne, une poétesse aveugle et sourde. Mmh. La scène se déroule au cimetière où une mère décédée vient soulager son enfant qui s'est endormi en pleurant sur sa tombe. La lumière perce l'obscurité même la plus sombre, comme dit le titre aussi de son recueil le plus célèbre « Clairière dans le ciel », ou aussi la signification de son chef-d'œuvre « Le psaume 130 », qui est une montée du fond de l'abîme au salut éternel.
Donc je pense qu'on va écouter ce psaume du fond de l'abîme, oui.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur cette œuvre?
Non, je voulais dire que vraiment, chez Lili Boulanger, on entend toujours une musique de mort et de guerre. Mais c'est une poétique qui fait toujours ressonner l'espoir et la paix.
Extrait du fond de l'abîme de Lili Boulanger, l'orchestre symphonique de Londres est dirigé par John Elliott Gardiner. Fiorella Sassanelli, est-ce que Lili Boulanger aurait pu être sauvée de sa maladie de Crohn?
Je pense que non. Je sais que même aujourd'hui, la guérison est difficile parce que la maladie de Crohn reste un dur ennemi à combattre. En tout cas, les médecins de Lili Boulanger ne connaissaient pas encore cette maladie qui sera découverte en 1932.
32, alors qu'elle est morte en 18.
18, oui. Et au début, elle essaie avec des séjours à la mer dans l'espoir de renforcer sa nature. On essaie même avec l'homéopathie. Parce que l'un de ses médecins est le docteur Paul Chiron, dont le nom j'ai retrouvé dans un agenda de Lili de 1912. Et Chiron, qui suivra constamment la musicienne pendant sa maladie, est considéré l'initiateur de l'homéopathie en France.
Donc, a priori, l'homéopathie pour la maladie de Crohn, ce n'est pas une bonne idée, non?
Eh bien, évidemment, ce n'était pas suffisant.
Est-ce que sa vie aurait pu être prolongée un petit peu ou pas?
En 1917, donc peu de mois avant de mourir, elle se soumet à une intervention chirurgicale d'appendicite et à laquelle elle survit écrit peu de mois parce qu'elle meurt le 15 mars suivant, donc c'était tout perdu.
Mais c'est le principe de l'émission, donc imaginons donc que Lily Boulanger se soigne, la maladie se calme et la vie de Lily est sauvée. Et si Lily Boulanger avait pu être soignée ? Première possibilité. Lily Boulanger se marie, fait des enfants, devient femme au foyer et n'ayant plus le temps, abandonne progressivement la composition. Fiorella Sassanelli, est-ce que selon vous, Lily Boulanger aurait pu arrêter la composition ?
Non, c'est impossible. C'est impossible parce qu'elle est empreinte de musique avant sa naissance. Sa grand-mère, Juliette, était un célèbre soprano de l'opéra comique et son père, Ernest, un compositeur décoré du prix de Rome. Sa mère, une princesse russe qui s'appelle Raïssa Micheski, avait été élève de son mari au conservatoire.
Donc c'est vraiment, elle est tombée dans le berceau, dans la marmite de potion magique.
Oui, mais aussi dans leur appartement au 36 rue Ballu, Raïssa Boulanger donne rendez-vous aux meilleurs musiciens de la scène parisienne pour animer un salon de musique dont la vedette est le pianiste Raoul Pugnot. Donc les réceptions se suivent de 1905 à 1913, après c'est la guerre, puis Pugnot meurt. Et pour répondre à votre question, la musique est un élément génétique des Boulangers. C'est impossible de s'éloigner.
Et selon vous, qu'aurait fait Lily Boulanger en termes de hobby, de loisirs, s'il avait vécu plus longtemps ? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Lily Boulanger est une femme pleine de lumière et de vie.
Oui. Alors je reprends, je faisais allusion avant à l'opération chirurgicale, à l'intervention d'appendicite. La veille de cette intervention, elle écrit une lettre. Testament à sa mère et sa sœur, « Ne soyez pas triste, écrit-elle, vous m'avez rendue heureuse et je voudrais que vous ne gardiez qu'un doux et joyeux souvenir de moi. » Donc, comme vous dites, la force de vie et son esprit de curiosité sont les traits caractéristiques de cette jeune musicienne. Elle ne se démentit jamais. À Rome, où elle séjourne pendant deux fois pour le séjour à l'Académie de France, elle fréquente souvent les cinémas. Et c'est pourquoi je pense que si la santé le lui aurait permis, elle aurait composé de la musique pour le cinéma. Aussi, je pense qu'elle aurait beaucoup voyagé, parce que Lily lit beaucoup, sa bibliothèque de famille est très très riche.
Et elle a écrit, elle était intéressée par l'Inde, c'est ça hein ?
Oui, en effet, parmi les livres qui l'intéressent, j'ai été frappée par un titre, L'homme en rose. C'est un récit de voyage de Marseille à Bombay, entrepris en 1910 par le peintre Albert Besnard, qui est le directeur de la Villa Médicis. Et dans l'état où Lily est, l'Inde est une destination impossible à rejoindre physiquement.
Et elle a écrit une vieille prière bouddhique ?
Oui.
Donc
oui.
C'est vraiment une passion. Ouais.
Oui, parce que c'est une composition écrite sur un texte d'une spécialiste de l'Orient, Suzanne Carpelles. Donc cet intérêt laisse croire que ce pays serait pour elle une destination d'élection.
C'est l'été sur France Musique, les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Lily Boulanger avait vécu en Inde ? Deuxième possibilité. 1930, Inde. Lily Boulanger effectue son premier voyage en Inde. Avec son amoureux, elle fait du vélo, visite des temples qui l'éblouissent. Elle se passionne pour les instruments indiens, comme la tabla, la sitar ou la flûte. Elle adore la mode également. Depuis qu'elle est en Inde, elle porte des saris magnifiques, des colliers et des bracelets dorés à chaque bras. Elle reste 3 ans en Inde. Elle compose une nouvelle œuvre, au style encore plus inouï que tout ce qu'elle a écrit jusqu'alors.
Thank you.
Un extrait de Uaxuctum de Giacinto Celsi, Fiorella Sassanelli. Donc on a avancé de 50 ans, faut avouer. Mais c'est vous qui m'avez parlé de Celsi à l'égard de Lili Boulanger, car moi je le savais pas, Lili Boulanger était passionnée par les nombres, les mathématiques et l'ésotérisme.
Oui, chez Lili, on retrouve presque, je dirais, une obsession pour les nombres. L'ordre de ses carnets révèle un formidable esprit géométrique. Et en plus, toutes les mesures de ses partitions manuscrites sont rigoureusement numérotées. On a aussi retrouvé dans ses carnets des feuilles de température notées à Rome, avec les valeurs de la température prises quotidiennement au matin à 2h et au soir, le nombre des pulsations et la valeur de l'albumine. Qui, au-delà du contenu médical, donne de quoi réfléchir à propos de sa vocation pour la systématisation des données.
Mais elle cherche avant tout à ce qu'il y a un principe commun, ou c'est par rapport à ses chiffres, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qui la fascine, selon vous?
À mon avis, c'est la fascination du nombre, de la valeur symbolique du nombre. En effet, même sa signature devient un graphisme mathématique avec la lettre LB composée de façon à former le numéro 13. Qui est son numéro porte-bonheur.
Le 13 est son numéro porte-bonheur, voilà.
Ouais. Parce que 13 sont les lettres de son nom. 1913, c'est l'année du prix de Rome, remporté 7 semaines avant son 20e anniversaire, elle calcule ça, sur un total de 13 candidats. Et donc, le parallélisme avec Celsi naît de plusieurs suggestions. Probablement, nos auditeurs connaissent la signature de Celsi, qui est une ligne surmontée par un cercle qui ne peut pas ne pas rappeler la synthèse graphique de la signature de Lili Boulanger.
Et d'ailleurs, pour Celsi, c'était le 8, il est mort, je crois qu'il est mort le 8 août 1988.
Oui, et il avait prédit la date de sa mort, Celsi l'avait prédit.
Mais c'est pas un suicide, non.
Non.
Fiorella Sassanelli, c'est maintenant que je vous pose la question. Si Lili Boulanger avait vécu davantage, selon vous, est-ce qu'elle aurait pu devenir la Alban Berg française?
Je dirais oui et non. Non, car Lili Boulanger reste assez prudente du point de vue de la syntaxe musicale, bien que ses Clairières dans le ciel offrent des parcours harmoniques très très intéressants. Et oui, parce que le personnage de la princesse Malène, dans laquelle la compositrice s'identifie, s'inscrit dans une galerie d'héroïnes de la modernité, qui naissent malheureuses. Je pense à Malène, bien sûr, mais aussi à Violetta Valéry dans La Traviata, de Giuseppe Verdi, ou Mimi dans La Bohème, ou encore Cio San de Butterfly de Puccini. Des héroïnes qui naissent malheureuses, mais qui sont condamnées à devenir maudites, comme Loulou de Berg. Et ce sont toutes victimes de leur même destin. Donc, de ce point de vue, Lili apparaîtrait comme l'évolution extrême de Malène.
Donc, la princesse Malène, ça aurait pu être la Loulou d'Alban Berg, mais en français peut-être. Une Loulou française.
Pourquoi pas.
Et si elle avait vécu, selon vous, vers quel style serait-elle allée? On a écouté du Celsi, bon, c'est peut-être un petit peu, un petit peu ambitieux, mais selon vous, vers quoi se serait-elle portée?
Lili n'a pas du tout la charge de l'avant-gardiste. Mais l'instinct pour la liberté intellectuelle est irréfrénable. Ses rencontres avec toute source culturelle deviennent une occasion de pollinisation à laquelle elle s'offre sans aucun filtre préjudiciel. Il me semble qu'elle intériorise tout, goutte après goutte. Et la musique qu'elle en découle est une source sublime de pensée, délicate et raréfiée, et en même temps puissante.
Je sens, Fiorella, que vous êtes, pour vous, c'est une immense compositrice, Lili Boulanger.
Non, je sens qu'il y a vraiment une nature si délicate, si raffinée et si puissante en même temps.
Fiorella, quand je vous ai demandé quelle était votre œuvre préférée de Lili Boulanger, vous m'avez cité deux, mais notamment la mélodie « Nous nous aimerons tant » du cycle « Clairière dans le ciel ».
Oui, parce que c'est toute la douceur d'une femme.
Nous écoutons « Nous nous aimerons tant » chanté par Stéphanie Doustrac avec Pascal Jourdan au piano.
Nous rêvons. nous asseoirons sur ce banc, tous deux.
Nous nous aimerons tant de Lili Boulanger, chantée par Stéphanie Doustrac avec Pascal Jourdan au piano. Fiorella Sassanelli, je rappelle le titre de votre ouvrage qui est bilingue, hein, n'est-ce pas? Il y a une partie en français?
Oui, il y a une annexe avec les lettres en français avec la traduction italienne.
Aux éditions Cafania, Lili Boulanger, fragment d'une vie interrompue. La semaine prochaine, nous nous demanderons dans nos uchronies musicales et si Wagner n'avait pas rencontré Louis II. Les uchronies musicales, collaboration Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Olivier Dupré, une émission réalisée par Céline Parfenoff. Et tout de suite, nous retrouvons Un été avec Louis Armstrong avec Florian Royer.
À réécouter sur francemusique.fr.